Bonjour. Après l'Italie, la France, le président chinois Xi Jinping est arrivé à Nice pour une visite d'État de 3 jours. En délicatesse avec les États-Unis et Donald Trump, il veut intensifier ses relations avec les Européens, dont Emmanuel Macron voudrait qu'il présente un front uni, pas gagné. Theresa May sur la sellette à Londres après la démonstration de force des anti-Brexit et les hésitations de la première ministre britannique. Son propre camp s'interroge sur son avenir au 10 Downing Street. Une septuagénaire militante du mouvement attaque gravement blessée dans une chute hier à Nice pendant une charge des CRS. Le parquet de Nice a ouvert une enquête. Attaque dénonce les interdictions de manifestation et porte plainte pour violence volontaire. Dans ce journal également, comment va le bâtiment après la baisse des APL et les efforts demandés aux bailleurs sociaux? Quelles conséquences sur l'activité du secteur? C'est le droit de suite de ce dimanche 13h avec notre invité Jacques Chanu, le président de la Fédération française du bâtiment. Quand les artistes et créateurs défendent de la directive européenne sur le droit d'auteur contre les GAFA, tribune du journal du dimanche, signée notamment par Alain Chamfort, qui nous dira pourquoi. Et puis pourquoi se gêner dans une petite commune de l'Hérault? Des platanes gênaient quelques riverains qui les ont donc empoisonnés. Ils devront être abattus, les platanes, bien sûr.
France Inter.
Le tapis rouge pour Xi Jinping à Nice. Le président chinois est arrivé ce matin sur la Côte d'Azur, direction Monaco pour commencer. Le Rocher ayant choisi Huawei pour développer la 5G sur son territoire. Et puis, il rejoindra ensuite Emmanuel Macron à Beaulieu-sur-Mer pour un premier entretien, suivi ce soir d'un dîner entre les deux couples présidentiels à la Villa Kérylos, Villa Musée Belle Époque, qui surplombe la Méditerranée. Le président chinois qui était hier en Italie et qui attache aujourd'hui beaucoup d'importance à ses relations avec les pays d'Europe. Angélique Forget à Pékin.
La visite en Europe du président chinois s'est ouverte sur une victoire diplomatique pour Xi Jinping. Pour la première fois, un pays du G7, l'Italie, vient de signer un protocole d'accord avec la Chine pour sceller son entrée dans les nouvelles routes de la soie, le vaste projet d'infrastructure chinois qui doit relier la Chine au reste du monde. Avec Emmanuel Macron, cela risque d'être plus compliqué. Le président français s'est dit sceptique quant à l'accord conclu entre la Chine et l'Italie. Depuis quelques mois, Paris veut faire front avec Berlin et Bruxelles pour freiner les investissements tous azimuts de Pékin. Xi Jinping le sait, il va devoir rassurer alors que la Commission européenne a qualifié il y a quelques jours, et c'est inédit, la Chine de, je cite, « rival systémique ». Alors que Pékin n'est toujours pas sorti du bras de fer commercial qui l'oppose à Washington, le président chinois sera-t-il plus réceptif aux pressions de l'Union européenne? À l'Elysée, mardi, ils auront toute l'occasion d'en parler en compagnie de la chancelière allemande Angela Merkel et du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Shanghai, Angélique Forget, France Inter.
Et oui, le temps fort de cette visite, ce sera mardi soir à l'Elysée, une nouvelle rencontre avec Emmanuel Macron en présence donc d'Angela Merkel et de Jean-Claude Juncker. Façon pour la France d'opposer au président chinois une Europe soudée, au moins dans l'image. Comme le soulignait ce matin l'invité de France Inter, François Godemont, spécialiste de la Chine au Conseil européen des relations étrangères.
Au niveau de l'Europe, il y a cette surdité par rapport au dialogue de l'Union européenne et par contre cette politique systématique, dont d'ailleurs le voyage de Xi Jinping témoigne, d'enfoncer toutes les portes, c'est-à-dire d'aller pays par pays.
Et c'est-à-dire le bilatéralisme, là où l'Europe préférait le multilatéralisme.
Écoutez, si le chef de l'État chinois fait une visite d'État à Monaco avec 38 000 habitants, c'est qu'il a le soin du détail. On peut dire qu'un pays d'1,4 milliard face à des pays de 30, 50, même 80 millions d'habitants, ça pèse plus lourd. Regardez l'interview de Xi Jinping qui est parue sans faire de réclame dans le Figaro pendant le week-end. Sur une page et demie, vous n'y trouverez pas le mot « Europe ». De façon fascinante. Et il en est toujours à la relation avec le pays qu'il visite à ce moment-là. Mais là, le geste de Macron, qui consacre une partie de sa visite à associer les Européens, vise à démontrer à la Chine et vise à démontrer à Xi Jinping qu'il ne peut pas continuer comme ça, pays par pays, en ignorant la volonté rassemblée des Européens.
François Godemont avec Éric Delvaux et Patricia Martin. Pour compléter ce dossier sur la Chine, voire sur franceinter.fr, un portrait de Xi Jinping. À Londres, au lendemain de la méga manif des anti-Brexit, c'est un climat de crise qui règne au 10 Downing Street. suite, entre 700 000 et 1 million de personnes ont demandé l'organisation d'un nouveau référendum qui n'est pas à l'ordre du jour pour Theresa May, la première ministre, qui hésite encore à présenter aux députés pour la troisième fois son projet de divorce dont ils n'ont pas voulu jusqu'à présent. La semaine qui vient sera donc décisive pour le Brexit et pour elle-même. Marina Daras à Londres.
Ce matin, les journaux britanniques s'agitent plutôt sur la position devenue incroyablement fragile de la première ministre. Il y aurait eu hier soir une série d'appels téléphoniques privés au cours desquels les ministres auraient convenu que Theresa May allait devoir se retirer si le gouvernement voulait faire passer l'accord négocié avec l'UE. La fronde se constituerait pour l'instant de 11 membres de son cabinet qui, d'après le Sunday Times, décrivent Theresa May comme une figure erratique. Tout laisse à croire que Theresa May sera donc confrontée à une sorte de rébellion lors de la prochaine réunion du cabinet où au moins 6 de ses ministres devraient apporter leur soutien au vice-premier ministre actuel David Lidington pour reprendre le leadership du pays et mener le Brexit à son terme. D'autres personnes ont été annoncées comme susceptibles de prendre sa place, comme Jeremy Hunt ou encore Michael Gove. La démission de Theresa May pourrait donc être imminente et elle deviendrait alors la réponse politique au blocage dans les négociations, mais aussi à la fronde populaire qui a manifesté en masse hier dans les rues de Londres. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
En Norvège, plus de peur que de mal pour les passagers d'un navire de croisière victime d'une panne moteur sur une mer très agitée. La plupart d'entre eux, quelques 1300 personnes, ont pu être élitreillées jusqu'à la côte ou vont l'être tout au long de la journée. Le navire pris en remorque sera mis en lieu sûr. Les images impressionnantes montrent le Viking Sky tanguer très fortement et le mobilier glisser tranquillement d'un bord à l'autre. Mais sans panique aucune à bord où les passagers, principalement américains et britanniques, attendent calmement leur évacuation. Et puis après la chute de l'État islamique et la prise de Baghouz par les forces arabo-kurdes en Syrie, on s'interroge aujourd'hui côté français sur Hayat Boumediene, la veuve d'Amédi Coulibaly, le tueur de Montrouge et de l'hypercachère de la porte de Vincennes. A-t-elle été tuée dans l'assaut ou bien les bombardements qui l'ont précédée? Sa mort, en tout cas, a été annoncée sur place, mais les services de renseignement ont des doutes. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'elle était en Syrie et qu'elle faisait partie des djihadistes qui refusaient de se rendre. Âgée de 30 ans, Hayat Boumediene avait rejoint les État islamique au tout début de 2015, quelques jours avant le passage à l'acte d'Amédi Coulibaly, qu'elle avait possiblement aidé dans sa préparation. Sa mort, rapportée par d'autres femmes de djihadistes, n'est donc pas confirmée par la DGSI.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamps.
Un peu plus de 40 000 manifestants dans toute la France, soit un peu plus que la semaine dernière, mais 5 000 à Paris, deux fois moins que la semaine dernière, selon les chiffres du ministère. Le 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes se sera donc déroulé sans problème majeur. Rien à voir en tout cas à Paris avec les débordements de violence du 16 mars. Les centres-villes avaient été placés sous très haute surveillance, ce qui d'ailleurs a pu irriter de nombreux manifestants qui ont cherché à pénétrer dans les périmètres interdits à Lyon, Montpellier, Bordeaux, Lille, Toulouse ou Nice. À Nice, où les interpellations se comptent par dizaines et où surtout une septuagénaire tombée à terre pendant une charge de police a été assez gravement blessée à la tête. Sa fille Delphine était encore ce matin sous le choc au téléphone de Fabien Fourel.
Émue, angoissée, stressée, parce qu'on nous a bien précisé que les 48 heures prochaines seront décisives, et fatiguée, parce que c'est quelqu'un qui se bat pour la paix. D'ailleurs, elle brandissait le drapeau de la paix, anti-violence totale, et je croyais qu'on était dans un pays démocratique. Les gens n'étaient pas là pour casser quoi que ce soit, ils étaient là pour juste dire leur mécontentement et qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans la société, quoi. Déjà, on n'a pas le droit à interdire à des gens pacifistes de se réunir et de ne montrer leur mécontentement. Contentement, quoi.
Le mouvement ATTAC, dont la septuagénaire est la porte-parole dans les Alpes-Maritimes, dénonce ce matin l'interdiction de manifester prononcée par le maire de Nice et demande que toute la lumière soit faite sur cette violente charge de police. Le parquet de Nice a ouvert une enquête. Les images de vidéosurveillance de la place Garibaldi ont été saisies. C'est l'une des mesures les plus marquantes du début de ce quinquennat en matière de logement. Mesure annoncée fin 2017, mise en œuvre dans le budget 2018. La baisse des APL, compensée en grande partie par une réduction des loyers dans le secteur du logement social, est donc financée par les bailleurs sociaux. Avec quelles conséquences? Alors que de nouveaux efforts budgétaires sont en préparation pour 2020, le monde HLM s'inquiète et interpelle le gouvernement. C'est le droit de suite de ce journal. Illustration dans la Sarthe avec ce reportage de Claire Chaudière.
En apparence, la deuxième baisse des APL après le premier coup de rabot de 5 euros est presque passée inaperçue pour les locataires. Christian, qui habite en HLM au Mans, se souvient tout de même avoir reçu une lettre de son bailleur.
On a tous reçu un courrier. Dans le courrier, ça parlait de l'APL, comme quoi les...
Les bailleurs sociaux expliquaient prendre à leur charge, sur demande du gouvernement, l'aide supprimée via des réductions de loyer, moins 1,6 milliard d'euros au niveau national sur 2 ans. À l'époque, des travaux de rénovation et d'isolation de façade étaient planifiés dans cette grande résidence vieillissante, une nécessité.
Ce sont les boiseries qui commencent à partir en lambeaux.
Là, on voit bien des plaques de béton qui tombent. Il y a des appartements qui sont littéralement froids. On les attend avec impatience, les prochains travaux.
Un programme de réhabilitation, aujourd'hui suspendu.
Donc, Guillaume Rion, moi je suis directeur général de Sarthe Habitat. Les entreprises devaient être désignées. Et c'est ça qu'on ne peut plus faire aujourd'hui du fait de la baisse de loyer qui nous empêche donc de lancer ces travaux. C'est l'ensemble de nos projets de réhabilitation thermique qui sont impactés. On fait croire aux locataires qu'ils ne sont pas impactés. Ce n'est pas vrai.
Pourtant, en empruntant avec de nouvelles facilités, en se restructurant et surtout en puisant dans ses réserves, le monde HLM peut s'en sortir, a suggéré à plusieurs reprises l'exécutif, un argument qui agace.
C'est un fantasme complet. La grande majorité des bailleurs réinvestissent l'intégralité de ce qu'ils dégagent comme résultat. On arrête de construire, on arrête d'entretenir, et bien évidemment, à moyen et long terme, on va vers une mort certaine du logement social tel qu'il a toujours existé.
Sans aller jusque-là, une récente étude de la Caisse des dépôts prévoit effectivement une détérioration de la situation financière des bailleurs sociaux et une chute d'ici 20 ans de 38% de la production de nouveaux logements dans le parc social.
Invité de ce droit de suite, Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment, qui regroupe l'essentiel des entreprises du secteur. Bonjour.
Bonjour.
Vous confirmez les inquiétudes dont parlait Claire Chaudière pour l'année qui vient et même déjà pour le deuxième semestre de cette année?
La pire des choses, c'est l'incertitude. Et en fait, ce qui est attendu, c'est une décision pour cette année concernant ce qu'on appelle la RLS, donc la continuité ou pas de cette baisse budgétaire globale. Ce qu'il faut qu'on sache assez vite, c'est quel est le compromis qui peut être trouvé à la fois entre les bailleurs sociaux et le gouvernement, ce qui permettra de relancer des programmes d'investissement.
La baisse des APL a pesé sur le budget des bailleurs sociaux, mais aussi la suppression de l'APL accession dont on parle beaucoup moins, hein, qu'on connaît beaucoup moins et qui est destinée aux premiers accédants, en quelque sorte. Oui. Elle aussi a pesé sur les programmes de construction.
Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le logement social, mais c'est une tranche aussi de ce qu'on appelle les primo-accédants, souvent en gros les jeunes qui achètent pour la première fois. L'appel accession permettait d'avoir un début d'apport, comme le prêt à taux zéro d'ailleurs aussi. Hein,
qui a été réduit aussi.
Qui a été réduit et surtout qui a été supprimé dans certaines zones, comme par hasard d'ailleurs les zones les rurales et périurbaines, celles qui aujourd'hui sont au cœur de beaucoup de préoccupations.
Le logement, dites-vous, est un grand absent du grand débat national. Oui. Vous avez lancé un appel récemment avec l'Association des maires de France et la Fondation Abbé Pierre. Vous demandez quoi? Une grande politique nationale du logement?
C'est très étonnant parce que le logement est souvent le premier budget contraint et on n'en a pas entendu parler autour des ronds-points et globalement dans le grand débat. Pourtant, je pense que c'est le moment de remettre sans doute à plat un certain nombre de choses. C'est pour ça que l'idée du gouvernement de rationaliser au niveau du logement social, d'essayer d'utiliser des fonds qui ne le sont pas, qui sont gardés en réserve, ça part plutôt, me semble-t-il, d'une bonne idée. Mais par contre, on peut pas définir de manière unilatérale les choses sans en parler avec les principaux partenaires. On appelle à un véritable pacte constructif, c'est-à-dire où tous les personnes et les institutions concernées par la politique du logement se retrouvent autour d'une même idée, y compris en admettant des contraintes budgétaires, mais en fléchant très directement là où il y a plus de besoin.
Mais ce serait quoi un bon plan de relance de la politique du logement? Ce serait quoi? Il y a déjà 40 milliards d'aides publiques destinées au logement.
Oui, 74 milliards de recettes. Donc je crois qu'il faut aussi toujours voir, pas avoir que cette vision que Bercy sur la dépense, il y a aussi la partie recettes que le budget lui connaît bien. Oui, je pense que
Ce sont des emplois.
Et ce sont deux emplois. Un logement, c'est deux emplois, en gros. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que, au-delà de l'aspect construction, le logement est aujourd'hui un secteur où il y a des attentes fortes. On estime qu'il manque entre 900 000 et 1 million de logements neufs par an. Et si on veut garder les ambitions annoncées du gouvernement en termes de rénovation énergétique, il y a plus de 30 millions de logements à rénover. Donc, vous voyez que le sujet est très vaste. Mais au-delà des grandes incantations des uns et des autres, il faut être capable en face de mettre les budgets qui permettent d'arriver à obtenir ces objectifs. Un véritable consensus autour des priorités me paraît aujourd'hui nécessaire et qui permettrait d'avoir de la visibilité sur 3, 4 ou 5 ans.
Alors parmi ces priorités, vous en avez cité une, la rénovation des logements, l'isolation, rénovation thermique, etc. Là, on n'est pas du tout au niveau.
Non, parce que je pense que l'idée de base qui était que les travaux seraient payés par les économies d'énergie faites, c'est-à-dire la facture de fuel, de gaz ou autre, en fait, ce modèle économique ne fonctionne pas parce que l'énergie, même si on trouve que c'est toujours trop cher, a un prix aujourd'hui qui empêche un retour sur investissement sur 7, 8 ou 10 ans. Et donc, il est clair que ce qu'il faut, c'est un système d'accompagnement, d'incitation pour retrouver un modèle où les gens qui investissent dans la rénovation énergétique puissent s'y retrouver au bout de quelques années. Et c'est là où l'impact budgétaire doit être important. Et lorsqu'on parle des plus précaires d'entre nous, très honnêtement, il faut que le reste à charge sur ces travaux soit le plus faible possible, voire zéro. Quand vous avez des problèmes de budget, y compris dans votre quotidien, pour aller faire vos courses, remplir la voiture, vous ne vous lancez pas dans des travaux de rénovation énergétique s'il y a un coût supplémentaire.
Alors on a commencé par le logement social, le problème des bailleurs sociaux, on va terminer par là. Qu'est-ce qu'il faut changer là pour les bailleurs sociaux? Il y a vraiment danger?
Moi je pense d'abord il faut qu'ils se réorganisent et ils en ont conscience. Je pense que tout le monde a pris conscience que le système jusqu'alors ne peut pas durer. On peut pas avoir des bailleurs qui eux ont des réserves et d'autres qui à côté ne sont pas en capacité, comme le témoignage le montrait, de faire des travaux élémentaires d'entretien. Donc il faut une forme de mutualisation. Ensuite il faut réduire les frais de fonctionnement, je pense que ça tout le monde est d'accord. Mais par contre il y a une limite à ne pas dépasser pour ne pas bloquer la machine. Et encore une fois, ce dont on a besoin, c'est de décisions vite pour savoir de quel budget les bailleurs sociaux disposeront pour pouvoir programmer les travaux. Rien n'est pire que l'incertitude quant à ces budgets. Ça rappelle les baisses de dotation aux collectivités où certes, il y a eu un rattrapage ces dernières années, mais l'ensemble des travaux a été bloqué pendant 2, 3 ou 4 ans.
Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment. Merci d'être venu dans ce journal de 13h. Les municipales à Paris, Anne Hidalgo reprend la tête dans un sondage IFOP du JDD. La maire de Paris devancerait de 2 points. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, 24 et 22%. Lequel résisterait un peu mieux que les autres candidats de La République en marche, Cédric Villani ou Mounir Majoubi? À droite, Rachida Dati ou Florence Berthoux, la présidente du groupe LR au Conseil de Paris, serait à peu près au même niveau, 15-16% pour l'ancienne ministre, 14% pour Florence Berthoux. Et les bons géants devinrent des ogres quand 171 artistes et créateurs s'engagent pour défendre les droits d'auteur. C'est dans le JDD une tribune signée notamment par Bilal, Sandrine Bonner, Jean-Jacques Goldman ou Louane contre les géants, autre appellation des GAFA, ces géants qui sous prétexte de défendre nos libertés pensent d'abord à leurs intérêts, écrivent les signataires. L'importance de cette directive européenne sur le droit d'auteur, dont la Commission d'ailleurs veut faire un enjeu majeur. Directive que les eurodéputés sont appelés à défendre et à voter. L'Europe et le monde vous regardent, écrivent les artistes et créateurs, parmi lesquels figure également Alain Chamfort. Il a dit à Lionel Thompson pourquoi il avait signé.
Tout simplement pour conserver une liberté d'expression qui est mise en danger actuellement, parce que il y a un très mauvais discours et très trompeur discours de la part des GAFAM, qui sont ces grosses sociétés américaines qui prennent comme prétexte que le droit d'auteur crée un problème de censure. Enfin, disons que ça ne permettrait pas aux gens d'accéder avec la même facilité à tout ce qui est disponible dans les produits culturels qui circulent sur Internet. Mais c'est faux, si vous voulez. Jamais la liberté sera atteinte, sera touchée. C'est pas parce que les GAFAM devraient reverser une petite rémunération aux créateurs des œuvres qui circulent sur leurs tuyaux que les abonnés ne pourront pas y accéder. Et ça changera même pas leur coût d'abonnement à eux. Simplement, une part de des gros profits que font ces énormes sociétés doivent être redistribués. Même, ils doivent payer aussi leur fiscalité. Enfin, il y a un minimum de choses à respecter dans ce monde.
Avec cette directive européenne, les éditeurs, producteurs et les médias pourront librement décider à quel prix leurs contenus pourront être réutilisés par des sites web. Allez, des arbres vous gênent, pas de problème. Un coup de perceuse, un peu d'acide et la question est réglée. 19 platanes ont été de cette façon empoisonnées à Gorniès, petite commune de 50 habitants dans l'Hérault. Et ce n'est pas la première fois, des arbres ont déjà dû être abattus ces deux dernières années. Fabrice Hawkins.
Les 19 platanes empoisonnées bordent la route principale du village. Ils sont tous marqués d'une croix orange. Catherine habite ici depuis 10 ans, au pied de l'un des arbres perforés. Elle ne comprend pas.
Mais j'avais pas vu, moi. Mais je rêve, hein. Oh, ah ouais, ils font des petits trous et ils injectent un produit. C'est des assassins, ces gens-là.
Mais qui on veut à ces platanes? Tout le monde se pose la question à Gorniès, d'autant plus que ce n'est pas la première fois. L'appartement de Marie se trouve en face de l'un des arbres touchés.
Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ici qui en avaient assez de réclamer que les arbres soient élagués. Ça fait des années et des années qu'on demande que ça soit élagué et qu'il n'y a pas eu de réponse par rapport à leur demande et qu'ils ont fini par le faire par eux-mêmes.
Certains riverains en ont marre, les arbres cachent le soleil. Céline Minardi, qui travaille au département de l'Hérault, estime que l'élagage des arbres doit respecter l'environnement.
Les élagages tiennent compte de la biodiversité. Ça, c'est une obligation réglementaire. On doit faire attention aux oiseaux qui sont à l'intérieur, aux chauves-souris qui sont à l'intérieur, et également à la vie de l'arbre. Donc, si vous voulez, les élagages ne peuvent pas être faits n'importe comment.
L'abattage de ces platanes va coûter 35 000 euros et le département aimerait tous les replanter.
Des platanes qui étaient centenaires pour certains d'entre eux.